minuit à Paris, 23h, en temps universel.
Antoine Galen.
Une trêve d'un mois dans les airs, sur les mers, les infrastructures énergétiques. C'est ce que proposent Paris et Londres au sujet de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite un réarmement de l'Europe. On y revient dès le début de ce journal. Tandis qu'Israël a annoncé suspendre l'entrée de marchandises et d'approvisionnement à Gaza, des montagnes de déchets jonchent le sol de l'enclave palestinienne. Dans ce journal également, nous serons en Chine où les négociations patinent pour définir le calendrier des prochains rapports du GIEC. Et puis, voyage direction la Lune, un robot américain privé s'est posé sans encombre sur la face nord-est. Les scientifiques espèrent étudier la poussière lunaire.
RFI.
Les alliés de Kiev se sont réunis ce dimanche pour un sommet à Londres sur la sécurité de l'Ukraine. Et ce, deux jours après un échange tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Pas de rancune pour le président ukrainien qui se dit en mesure de restaurer les relations avec les États-Unis. Dans ce contexte, la France et le Royaume-Uni proposent une trêve d'un mois dans les airs, sur les mers, les infrastructures énergétiques. Les combats au sol pourraient donc continuer. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaite un réarmement de l'Europe. On écoute.
Nous sommes prêts, avec vous, à défendre la démocratie, à défendre le principe selon lequel il existe un état de droit, selon lequel vous ne pouvez pas envahir votre voisin et le tyranniser, ou vous ne pouvez pas modifier les frontières par la force.
Il n'y aura pas de troupes européennes sur le sol ukrainien dans les semaines qui viennent, c'est ce qu'indique Emmanuel Macron. Le président français ajoute que la possibilité d'un déploiement de troupes européennes ne viendrait que dans un second temps. L'ONU appelle au rétablissement immédiat de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Un peu plus tôt, Israël a annoncé suspendre l'entrée de marchandises et d'approvisionnement dans l'enclave. Et ce, après le refus du Hamas d'une proposition qui prévoit une extension du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril. Proposition qui implique la remise immédiate de la moitié des otages restants, morts ou vivants. De son côté, le Hamas a répété sa volonté de passer à la deuxième phase prévue par l'accord initial. Elle devait entrer en vigueur ce dimanche. À Gaza toujours, c'était l'une des conditions pour accélérer la libération des otages vivants, permettre l'entrée de centaines de tractopelles pour commencer la reconstruction de l'enclave, des engins de chantier qui permettront aussi de nettoyer des montagnes de déchets accumulés parfois depuis plus de 15 mois. Reportage de Rami El-Meghari et Pierre-Olivier.
Au beau milieu de la ville de Gaza, la place de Fras Market s'est transformée en décharge à ciel ouvert. Noyée dans les déchets, une tractopelle hors d'âge, au mouvement saccadé s'affaire, la dernière encore en service à des kilomètres à la ronde. Mohamed Alachi est le chef du ramassage des ordures de la ville de Gaza.
Vous voyez tous ces déchets solides, liquides, tout ne brûle pas. Sans matériel approprié, on ne peut pas les déplacer. Ça entraîne la prolifération d'insectes, d'odeurs et de maladies. Beaucoup de personnes habitent autour. C'est très dangereux.
Justement, non loin de cette déchetterie à ciel ouvert, Teba Abou Nahel vit sous un abri de fortune à même le sol.
Il n'y a que des femmes dans cette tente, pas d'hommes. Alors on a toujours peur qu'une souris ou autre chose rentre à l'intérieur. Il faut vraiment nettoyer tout ça. Je suis malade en plus, j'ai du diabète, de l'hypertension. Regardez mes mains.
Pendant près de 15 mois, la présence de l'armée israélienne à l'est de l'enclave a empêché l'évacuation des déchets vers les décharges existantes. Les habitants attendent donc maintenant des dizaines de tractopelles pour pouvoir y déplacer ces montagnes de déchets. Rami El-Meghari, Gaza, Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
En Iran, lors d'une motion de censure, le Parlement a révoqué le ministre de l'économie. Abdon Nasser Emati, en poste depuis août, est tenu responsable d'une forte dépréciation de la monnaie nationale face au dollar et d'une inflation galopante. Elle est supérieure à 30% par an depuis 2019. Une dégringolade accélérée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En France, 15 ans après, un hommage a été rendu aux victimes de la tempête Xynthia. La catastrophe avait fait 47 morts en 2010, dont 29 dans le village vendéen de la Faulx-sur-Mer, dans l'ouest de la France. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Un air de fin du monde sur l'île de la Réunion. Les dégâts sont nombreux après le passage du cyclone Garance qui a fait 4 morts et 5 blessés. La route du littoral reliant l'ouest au nord de l'île a été rouverte à la circulation dimanche à la mi-journée. Les réseaux électriques continuent d'être progressivement remis en route, mais 90 000 personnes restent privées d'alimentation. 65 000 personnes sont encore privées d'eau courante. Pour y remédier, la préfecture a déployé 60 citernes sur l'île. Quand sortira le prochain rapport du GIEC ? À Hangzhou, en Chine, les scientifiques membres du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ainsi que les représentants gouvernementaux de 195 pays, devaient adopter le calendrier pour la publication du rapport, mais les négociations sont dans l'impasse. En 2028, les pays signataires de l'accord de Paris doivent procéder à leur prochain bilan mondial pour évaluer leur progrès dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mais la réunion en Chine s'est terminée la nuit dernière sans qu'une date de parution ne soit fixée. Stéphanie Schuller.
Les décisions au sein du GIEC se prennent par consensus, mais même après des négociations marathon qui ont duré toute la semaine, ce consensus a fait défaut. Les représentants gouvernementaux de plusieurs pays producteurs de pétrole ou grands pollueurs, dont les émissions augmentent, comme ceux de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de la Russie et de l'Inde, se sont opposés à une publication du 7e rapport du GIEC avant 2028 et donc à temps pour servir de base au prochain bilan mondial des pays signataires de l'accord de Paris. De leur côté, certains pays africains et latino-américains se sont montrés également réfractaires parce qu'ils souhaitent que les travaux de leurs propres scientifiques ainsi que les connaissances des peuples autochtones alimentent davantage la rédaction du rapport. Au petit matin de ce dimanche, la réunion du GIEC s'est achevée sur un accord qui prévoit certes la poursuite des travaux scientifiques sur le 7e rapport, mais sans fixer le moindre calendrier pour sa publication. Les défenseurs de l'environnement ont dénoncé une impasse qui ne sert qu'à retarder l'action climatique.
Un militant écologiste assassiné dans le sud du Mexique, Cristiano Castro Perea, bénéficiait pourtant de mesures de protection officielles. Deux personnes circulant à moto lui ont tiré dessus à plusieurs reprises, c'est ce qu'indique le CEDAPI, le Centre pour les droits de l'homme et les conseils aux peuples autochtones. L'homme de 63 ans s'opposait depuis 2013 au développement d'un projet hôtelier de 24 hectares sur une plage de la côte pacifique. Le gouvernement fédéral avait classé cet espace en zone naturelle protégée, interdisant de fait toute construction. D'après l'ONG Global Witness, 18 défenseurs de l'environnement ont été assassinés au Mexique en 2023. La légalisation du cannabis, c'est ce que propose le président colombien Gustavo Petro au Parlement. L'interdiction de la marijuana en Colombie n'apporte que de la violence, ce sont ses mots sur le réseau social X. La Colombie a légalisé le cannabis médicinal en 2016, mais son commerce pour usage récréatif reste pénalisé. Et nous quittons la Terre ferme pour rejoindre la Lune. Un robot américain s'est posé sans encombre sur la face nord-est. Il s'agit de Blue Ghost Mission One, un robot lancé par une entreprise privée pour le compte de la NASA. Laurence Théo revient sur le but de cette mission spatiale.
50 ans après la fin du programme Apollo, les Américains sont de retour sur la Lune. Après 45 jours de voyage, l'engin spatial privé Blue Ghost a donc réussi à se poser doucement ce dimanche 2 mars à 9h35 heure de Paris sur la surface lunaire. Plus fort encore, une manœuvre périlleuse lui a permis d'alunir exactement à l'endroit prévu, c'est-à-dire sur une formation volcanique qui se trouve sur la face nord-est de la Lune. Ce robot compact doré de 2 mètres de haut et de 3,5 mètres de large transporte divers instruments scientifiques de la NASA, à son bord un outil pour forer le sol lunaire et analyser ses températures ou encore un appareil photo. Ces expérimentations permettront aux scientifiques d'étudier par exemple le mystère de la poussière lunaire. Blue Ghost fonctionnera pendant 14 jours terrestres et devrait également immortaliser au cours de son séjour un crépuscule ainsi qu'une éclipse totale de lune, un événement survenant quand l'astre passe dans l'ombre de la Terre.
Retour sur Terre et plus particulièrement sur les terrains de football. Vainqueur de la Cup la saison dernière, Manchester United s'est fait éliminer par Fulham au tir au but. En Italie, l'AC Milan s'enfonce dans la crise en perdant 2-1 face à la Lazio de Rome. Ils sont 9e au classement. En France, l'Olympique de Marseille s'impose au Vélodrome face à Nantes 2-0. Quelques heures plus tôt, l'Olympique lyonnais s'est sorti du piège breton. Victoire 2-1 contre Brest. RFI, il est bientôt 10:30 à Paris, 23h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.